Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue d'Actualité économique du jour. 100 milliards, 100 milliards, nous dit le rapporteur général du budget. C'est l'addition totale de l'ensemble des amendements déposés par les groupes d'opposition lors de la première journée d'examen de la loi pouvoir d'achat en commission. Voilà, on va faire un peu la liste de tout ça. Et peut-on se permettre d'aller à des niveaux totalement stratosphériques de dette et de déficit? On est sur 5 fois la facture initialement prévue par le gouvernement. Le pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut faire payer l'énergie en fonction des revenus? C'est quand même un petit peu l'idée qu'il y avait dans les propos d'Elisabeth Borne à Aix-en-Provence, même si je pense qu'à l'arrivée, on sera sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus basique que des prix à géométrie variable en fonction du niveau de vie des gens. C'est un événement aujourd'hui, nous sommes à la parité euro-dollar. Je n'ai pas le chiffre exact, mais enfin on était à 1,001 vers 7h10 du matin. Donc voilà. Qu'est-ce que ça signifie la parité euro-dollar? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Pourquoi nous en sommes là? Et est-ce que ça n'est pas une raison supplémentaire qui va pousser la Banque Centrale Européenne à durcir sa politique monétaire? On parlera de Uber Files. L'ensemble des chroniqueurs économiques aujourd'hui considèrent qu'il n'y a aucun problème et aucun scandale dans le rôle qu'Emmanuel Macron a pu jouer au moment où Uber a essayé d'entrer en France. Il était là pour lutter contre les rentes, casser les monopoles, créer de l'emploi. C'était son boulot de ministre de l'économie. Il n'a pas été rémunéré pour ça. Personne ne voit, en tout cas chez les observateurs de l'économie, dans les Échos ou hier sur LCI, dans la bouche de François Langlais, où est le problème. Et puis, les défaillances d'entreprises ont un peu augmenté, mais elles sont encore à des niveaux très bas. C'est évidemment la conséquence des prêts garantis par l'État, mais on est 37% en dessous de juin 2019 à la fin du mois de juin 2022. Fergan Azeyari, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes le délégué général de l'Académie libre des sciences humaines. Vous avez publié Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Frédéric Farah, bonjour.
Bonjour.
Économiste et enseignant-chercheur affilié au laboratoire Phare de l'Université Paris-Sorbonne. Phare pour philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. J'aime vraiment beaucoup l'appellation. Éric Ayer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques. Vous avez coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Voilà, 100 milliards, nous dit effectivement Jean-René Cazeneuve, le rapporteur général du budget, 600 amendements et ça n'est que le début de l'histoire. Le Rassemblement National veut la TVA à 5,5 sur tous les produits d'énergie. TVA zéro sur un panier de 100 produits de première nécessité. Geler les cotisations des patrons qui augmentent l'intégralité de leurs salariés sous 3 SMIC. De 10%, c'était la grande mesure pouvoir d'achat de Marine Le Pen pendant la campagne. Les Républicains veulent bloquer le prix des carburants à 1,50€ le litre en baissant les taxes. On est juste à peu près aux 2€, un petit peu en dessous aujourd'hui. Et aller plus loin sur la défiscalisation des heures supplémentaires, visiblement Bruno Le Maire est prêt à le faire. La France Insoumise veut bloquer les prix des carburants mais par décret, non pas à 1,50€ mais à 1,40€. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Mettre le SMIC à 1500€ net, et une demande soutenue également par le PS. Taxer les profiteurs de crise. Je mets entre guillemets les profiteurs de crise, vous l'avez bien compris. Quand vous entendez ça, Eric Ayer, je suis un peu désemparé.
On a l'impression qu'on refait un tout petit peu le match des présidentielles.
Globalement, on rentre dans dans la législation.
Bon, vous voyez, c'est le jeu démocratique. Il y a des groupes qui donnent des propositions. Ensuite, ça va. Ils n'ont pas la majorité, donc il y a très peu de chances pour que finalement ces décisions. Alors, vous voyez, si certains arrivent à faire passer quelques mesures, comme la défiscalisation des heures supplémentaires, Donc peut-être que c'est un jeu. Vous demandez gros pour avoir une petite mesure, c'est possible. Il est certain que, vous avez fait l'addition, et l'addition, ça fait 100 milliards. Ouais, moi, j'ai même pas fait
cette addition. C'est à la louche, à mon avis, Jean-René Cazeneuve qui sort ce chiffre pour marquer l'opinion.
Bien entendu que, il faut juste peut-être rappeler où est la crise. La crise, c'est en gros, aujourd'hui, cette inflation, c'est une inflation importée, donc c'est une ponction de revenus de l'étranger. Donc la France va perdre, les pays européens vont perdre, parce qu'ils sont des importateurs de pétrole, de gaz et d'alimentaire. Et donc, on l'évalue, nous, à peu près à 2 points de PIB. Donc, il y a une perte de 2 points de PIB.
50 milliards.
Voilà. Et il faut se dire, mais qui va payer cela ? D'accord. Et donc, c'est trop fort pour qu'un agent le paye complètement. C'est-à-dire que les ménages ne peuvent pas supporter une ponction de 50 milliards. Les entreprises ne peuvent pas compenser tout cela par des hausses de salaire, sinon ça fait une spirale inflationniste et les banques centrales n'auront pas d'autre choix que d'augmenter très vite les taux d'intérêt et provoquer une récession. Donc on veut éviter ces deux-là. Et l'État, on a discuté X fois de est-ce qu'on est code d'alerte ou pas code d'alerte, mais en tout cas, il est certain qu'ils ne peuvent pas non plus supporter l'intégralité du choc. Eh ben, il faut trouver des mesures qui permettent, enfin, en tout cas, limitent le coût pour des ménages fragiles et pour des entreprises fragiles. Et il va falloir que les autres agents acceptent ce coût. Et il ne faut pas parler de coût, il faut que j'arrête de parler de coût, mais d'efforts que l'on fait. Il faut rappeler, on est passé d'une crise sanitaire à une économie de guerre. Cette économie de guerre nécessite des efforts de la part de
certains
ménages.
Personne n'ose ce terme politiquement. Et le terme effort, personne.
Il va falloir pourtant y arriver parce que aujourd'hui, on pense que ça peut coûter zéro. Mais non, ça peut pas coûter zéro. Il faut bien que quelqu'un paye. Voilà. Et donc, on veut pas que ce soit les finances publiques, on veut pas que ce soit les ménages, on veut pas que ce soit les entreprises. C'est pas possible. Ça sera un peu des trois et il va falloir bien désigner. Et c'est ça qui est compliqué. C'est plus facile d'en parler face à un micro et dire, mais bien sûr qu'il va falloir les ménages fragiles, les compenser. C'est très compliqué à faire parce que c'est multifactoriel et que vous allez, du coup, provoquer des effets de seuil et certains ménages vont dire, mais pourquoi je suis pas aidé alors que mon voisin l'est? Et
donc c'est ça va. Disent les classes moyennes que j'ai citées dans mes tweets d'hier matin.
Oui, c'est une catastrophe.
Pourquoi je bosse quoi?
Bien sûr que pour un économiste, c'est facile de dire que il faut arrêter le quoi qu'il en coûte généralisé et faire du sur-mesure. Sauf que d'un point de vue politique, ça veut dire qu'il y aura des perdants ou des personnes qui et il va falloir que ces perdants l'acceptent. Et ça c'est compliqué. Et donc du coup, on préfère faire des mesures qui sont pas optimales d'un point de vue économique, mais qui passent mieux d'un point de vue de la société. Mais ça veut dire que c'est les finances publiques qui le compose intégralement. C'est ça qui devient compliqué. Donc, je comprends l'opposition qui essaie de dire « Mais allons-y, si j'étais au pouvoir, ça se passerait comme ci ou comme cela. » Mais la réalité, effectivement, il faudrait qu'il y ait un message un peu plus de vérité, dire « Voilà, il va falloir qu'il y ait quand même des perdants. » Et même refaire l'histoire, dire « Voilà, pendant la crise sanitaire, on a maintenu le pouvoir d'achat des ménages, on a maintenu des entreprises aussi leurs revenus globalement. » Et bien là, on va changer un peu d'histoire. Les ménages qui ont surépargné, vous voyez, il y a 170 milliards de surépargne, nous dit la Banque de France, concentrés plutôt sur les ménages aisés, il est peut-être un peu normal qu'on demande à ces ménages de puiser dans cette surépargne pour maintenir leur consommation, ou en tout cas qu'on va arrêter de les aider, et que des entreprises qui sont dans les secteurs qui ont été déjà énormément aidées pendant la Covid et qui aujourd'hui bénéficient de la situation, leur dire il va falloir que tu fasses des efforts pour augmenter tes salaires, pour compenser. Enfin, il va falloir qu'il y ait un moment, puisqu'on est en économie de guerre, une économie un peu plus solidaire et dire il y a un coût, il y a un effort à faire.
J'entends Eric Ayer, ce discours de vérité, quand je vois ces listes d'amendements, c'est pas un discours de vérité. On peut pas dire on va bloquer à 1,40 le carburant. Il y a un moment. Donc ce serait pas mal que les politiques soient dans un discours de vérité, comme effectivement vous présentez la situation avec beaucoup beaucoup d'objectivité. Réaction à ce qui a été dit, Frédéric Farah et puis Ferran Azihari.
Je suis d'accord parce qu'en fait,
la
véritable question, Eric Ayer le dit très bien. En fait, et on le voit à travers la question de l'inflation, on le voit à travers la question des partages, des décisions budgétaires à prendre. La vraie question, on se retrouve dans le bon vieux conflit de répartition. C'est-à-dire que, en fait, il y a un conflit de répartition qui est le conflit central de l'activité économique. Et donc, qui dit répartition? Donc, effectivement, la répartition entre le capital et le travail, à travers la répartition, effectivement, des efforts, et que, de toutes les façons, on ne va pas être dans quelque chose qui va être positif pour tout le monde. Certains vont payer, d'autres vont payer peut-être un peu plus. Et donc, c'est derrière la question de la répartition, se pose la question du rapport de force. C'est-à-dire la capacité de ceux qui peuvent, effectivement, faire payer à d'autres plus en tant que tel. Alors, prenons le cas des salariés, par exemple. Le problème, c'est que avant cette crise, de toutes les façons, déjà dans la zone euro, peut-être c'est un peu différent en France, mais dans la zone euro, la progression des salaires n'était pas si importante que ça. Je rappelle une déclaration de Mario Draghi en avril 2017 qui disait aux différents gouvernements européens qu'il avait trouvé que la progression des salaires n'était pas suffisante, il fallait qu'il fasse un effort au niveau des différentes nations européennes pour pousser une augmentation des salaires. Donc il y a pour toute une catégorie de salariés déjà dans le passé un certain hiver salarial. À l'époque, l'inflation ne progressait pas tant que ça, donc ça pouvait paraître plus supportable. Maintenant, voilà que ces mêmes salariés se retrouvent, alors qu'ils avaient connu des progressions salariales qui n'étaient pas suffisantes, face à le retour d'une inflation plus soutenue. Donc, est-ce que eux, ils vont devoir payer davantage ou pas? Donc, la question, et c'est ça qui est effectivement passionnant et très difficile, c'est une question politique parce que c'est une question de redistribution, c'est une question de revenus et d'efforts. Qui va supporter plus? Ou donc, on se retrouve dans la logique au cœur de l'économie, c'est-à-dire des rapports de force.
D'ailleurs, ça m'intéressera de savoir quel est votre avis sur le pic d'inflation qui a été atteint, vous avez dit Bruno Le Maire. On commence à avoir des baisses de prix alimentaires, on voit que le carburant a aussi reculé. Faire garder hier, par rapport à cette surenchère à tous les étages, et ce que je considère comme étant très loin d'un discours de vérité. Oui, ce qui d'ailleurs fait suite à la campagne présidentielle, qui n'a pas plus été un discours de vérité sur le plan économique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, ça, vous avez raison.
Et le problème, c'est que ça passe dans l'opinion, parce que maintenant...
Oui, effectivement, on a été acculturé effectivement au quoi qu'il en coûte, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Eric hier à une réserve près, c'est-à-dire que je ne comprends pas très bien l'intérêt de dire à ceux qui épargnent beaucoup, on va consommer davantage dans une période de pénurie. Il me semble au contraire que dans ces périodes de pénurie, l'épargne est une vertu et la consommation n'ajoute pas grand-chose d'intéressant. Vous avez raison sur le fait que de toute façon cette crise sera coûteuse, c'est-à-dire qu'on est dans une période de pénurie liée à la fois aux problèmes logistiques relatifs à la crise sanitaire et en même temps à des problèmes géopolitique. Maintenant, on se pose la question de la répartition, comme l'a dit Frédéric. Moi, je note quand même avec intérêt que Frédéric Farah a beaucoup parlé du conflit de répartition entre le travail et le capital, mais on ne parle pas beaucoup du conflit de répartition entre le privé et le public. Or, s'il y a... je pense aujourd'hui au fait que vous parliez de surenchère en matière de finances publiques et de dépenses publiques. Hein, on est quand même dans un pays, encore une fois, où l'État est la seule institution qui n'a pas fait beaucoup d'efforts, justement, dans...
Sur les efforts.
Voilà, on parlait d'efforts, d'accord. On parlait de coûts. D'accord. On parle de demander des efforts aux ménages et aux entreprises. Très bien, elles vont devoir en faire, ça c'est une certitude. Mais je remarque que cette injonction à l'effort s'applique généralement très peu aux administrations publiques qui, elles, ont un train de vie qui ne bouge pas et qui ne sont jamais justement invitées à se remettre en question dans un moment où tout le monde devrait faire preuve d'un peu plus de sobriété.
Il n'y a d'ailleurs aucune mesure d'économie par rapport à ces 6 ans.
Aucune.
C'est pas totalement faux ce que dit Fernand Aziri sur l'absence d'efforts de la sphère publique. On ne va pas me dire qu'on est à l'os partout et qu'il n'y a pas des choses qui seraient possibles.
D'autant que
dans cette période d'économie de guerre. Alors allez-y.
Non, bien sûr. D'autant, encore une fois, qu'on fait l'erreur en France toujours de considérer que la dépense publique est l'alpha et l'oméga de la prospérité. Si c'était le cas, ça se saurait. La France serait en passe de devenir la nation la plus riche du monde quand la Suisse serait le pays le plus misérable. C'est pas exactement comme ça que les choses se passent.
L'effort public aussi. Eric, c'est pas faux. Moi, je suis assez sensible à l'argument. Non,
mais si vous regardez les salariés, d'accord, du public par rapport aux salariés du privé, on a demandé, me semble-t-il, un effort aux salariés du public depuis des années. C'est-à-dire qu'on a
du point d'indice.
Eh ben oui.
Mais il y a d'autres éléments de rémunération.
D'accord. Mais il se trouve que tout de même, un professeur qui arrive, je prends l'exemple d'un professeur.
Mais c'est l'exemple scandaleux, le professeur.
Mais non, mais pas le professeur, mais n'importe qui. Alors,
c'est insupportable, le prof quand qui vous a gelez... plus 5 et qui a 2000 par
d'accord.
mois.
D'accord, bon, ok.
Donc, du coup, oui, personne ne pense à lui quand on parle même... de.
Non, mais du coup, on demande bien des efforts aux salariés. Non, mais bon, on prend le cas des professeurs, mais de n'importe quelle personne de la fonction publique, puisque le point est gelé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat d'un nouveau entrant dans la fonction publique est de plus en plus faible.
Oui, ça, c'est vrai.
Bon, mais donc,
les nouveaux entrants.
Et on n'a pas demandé des efforts cette année.
On
a demandé
des efforts depuis.
Oui, mais des profs, mais même d'autres. Fonctionnaire. Encore une fois, quand vous gelez le point, c'est-à-dire que vous gelez le point d'entrée. C'est-à-dire que n'importe quel fonctionnaire qui entre aujourd'hui a un pouvoir d'achat nettement plus faible que le même fonctionnaire qui est rentré il y a un an, deux ans, dix ans dans le passé. Donc, on a bien demandé des efforts, tout de même, aux salariés de la fonction publique. D'accord ? Et là, quand aujourd'hui, on leur dit on vous met une augmentation de 3,5, on a l'impression qu'on leur fait un cadeau. D'accord. Alors que dans le privé, on va progresser, en moyenne, les salaires vont progresser de 3 ou 4%. Donc en fait, on demande pas, il y a le même effort. Donc il faut faire attention. D'un côté, on dit c'est normal que les salaires du privé augmentent et qu'il va falloir qu'ils augmentent même.
Mais le point de vue, c'est normal qu'il augmente.
Et ben voilà. Et ben oui, mais donc on montre comme si c'était, vous voyez, c'était présenté dans le budget comme, et ben finalement, une dépense supplémentaire. Non, c'est quand on nous gèle, c'est des économies qu'on demande. Quand on ne gèle pas, il n'y a pas de dépense supplémentaire.
Pas forcément des salariés, on parle aussi de l'institution publique en tant que telle.
Non, mais d'accord.
Non, mais d'ailleurs, vous faites aussi. Vous feignez d'ignorer que tous les salariés de la fonction publique se valent. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Il y a aussi des problèmes de bureaucratie que l'on peut interroger, se poser la pertinence de certains postes par rapport à d'autres. Quand on dit quand on parle de demander des efforts à l'administration publique, personne ne parle des professeurs, personne ne parle des médecins, personne ne parle. Enfin, c'est pas ces gens-là qui sont visés.
Oui, mais vous parlez de deux tiers des fonctionnaires. Dans ces cas-là, il faut couvrir. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça. Parce que
on va parler parler de la réforme des retraites, on va parler de plein de choses, ben voilà, mais les dépenses publiques, je suis d'accord avec vous,
mais je pense
réduire la question de la dépense publique à une question de masse salariale, je suis d'accord, ce n'est pas pertinent.
Le problème, c'est que quand vous dites cela, il y a un petit problème, à mon avis, d'idées que vous diffusez qui est fausse, c'est que quand vous réduisez les retraites, d'accord, le poids des retraites, vous ne réduisez pas la fonction publique, c'est du privé à privé.
Les dépenses publiques.
Mais non, mais d'accord, mais les dépenses publiques, vous mettez les retraites dedans, et c'est normal parce que c'est ce qui fait la grosse différence. Mais si vous baissez le poids des retraites, c'est le retraité du privé qui va être impacté. Oui, ça n'a rien à voir avec la fonction publique. Oui. C'est-à-dire que globalement, c'est de la redistribution.
C'est pour ça que je parlais de dépenses publiques et non pas des fonctionnaires.
Oui, mais la dépense publique dont vous parlez, on a l'impression que c'est des fonctionnaires qui vont devoir faire les efforts.
Alors que c'est des retraités du privé. C'est vous qui avez parlé des fonctionnaires, ce n'est pas moi.
Non, non, mais en tout cas, quand vous dites la dépense publique doit baisser par les retraites, il faut bien que l'auditeur se dise c'est des actifs, c'est des retraités du privé qui vont perdre.
En effet.
Et Frédéric Farah. Et après, moi, je vais vous faire mon affirmation scandaleuse, là.
Oui. Et puis, aussi, il faut quand même aussi garder à l'esprit, toujours sur les salaires qui sont bas, l'État est un producteur de précarité pas possible, parce que croire que tous les gens qui travaillent dans la fonction publique, c'est des fonctionnaires statutaires, c'est pas vrai.
Non, il y a 1 million de
contractuels. Effectivement, il y a des contractuels.
Enfin, c'est pas aberrant qu'il y ait des contractuels.
Non, mais il y a aussi... L'État fabrique, évidemment, lui aussi, il est grand fabricant d'emplois atypiques, c'est-à-dire il ne fabrique pas de l'emploi statutaire. Donc il y a une précarisation de ceux qui ont un rôle dans la fonction publique. Ça, c'est un. Et puis deux, les administrations, depuis les années 80-90, ont supporté des réformes en tout genre pour expliquer qu'on allait faire émerger des gisements de productivité. On a soumis les administrations, New Public Management, j'en passe, la RGPP. On n'a pas arrêté de soumettre les administrations.
Avec un résultat nul.
Mais oui, et ça ne marche pas.
Ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. L'idée, très bien, non, pourquoi ça marche pas.
Non, mais l'idée, enfin, pour moi qu'il faut combattre, c'est le privé, c'est productif. Le public, c'est improductif. Donc, il y aurait effectivement dans le privé que des salariés mobilisés tous les jours, etc., qui veulent bosser.
Il y aurait un petit peu la théorie économique.
Il y aurait des ronds de cuir en face. Je pense que
tout le marche pas bien dans le privé. Moi, pour faire régler la clim du studio, il faut que je fasse une petite note. Donc, vous voyez,
voilà. Mais c'est-à-dire et que on serait aujourd'hui, je veux dire, par exemple, on nous dit, enfin, si on fait de la théorie économique, normalement. Les salaires sont rémunérés en fonction de la productivité marginale. Donc, il faudrait expliquer, par exemple, pourquoi certains PDG auraient tellement de rémunération par rapport à d'autres salariés. Ça voudrait dire qu'il faudrait être capable de prouver qu'ils ont une productivité marginale tellement supérieure aux autres que cela justifie. Alors, moi, je veux bien qu'on me le montre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'administration, elle a supporté des réformes en tout genre avec un résultat plus que discutable. Ça c'est un. Et puis ensuite, aujourd'hui, il faut distinguer, on a du mal à distinguer qu'est-ce que c'est qu'une dépense d'investissement ou une dépense courante.
Ah, c'est un sacré sujet.
Et ça, c'est aussi un autre problème. Alors, c'est quoi le salaire d'un professeur? Est-ce que c'est une dépense d'investissement ou est-ce que c'est une dépense courante? Alors ça, c'est vraiment la question qu'il faut
poser.
Non,
mais c'est pas ça le sujet. C'est que quand vous regardez aujourd'hui comment est dépensé l'argent de l'éducation nationale, il y en a 51% pour payer les profs, 49% pour payer la machine.
Voilà.
En Allemagne, 80% payent les profs et 20% la machine. On a un problème de machine.
Qualité-prix, je veux dire, c'est évident. Tout à l'heure, Frédéric disait le privé est productif, le public ne l'est pas. La théorie économique est plus subtile que ça, et vous le savez très bien, Frédéric. Ce qu'on reproche au secteur public, enfin ce qu'on reproche, non, c'est pas un reproche, puisque c'est structurel. Le privé a l'avantage d'être soumis au test des profits et des pertes. Et donc, un entrepreneur, quand il doit évaluer sa productivité sur le marché, c'est très simple, s'il n'a pas de clients, il coule, et donc c'est le signe effectivement que sa valeur ajoutée est pas très élevée.
Ah, le privé peut aller au tribunal de commerce, pas l'État.
Exactement. L'État, non. L'administration publique n'est pas soumise au risque de faillite, et donc ça pose une question effectivement d'incitation à la performance qui n'est pas la même. Quand par exemple la législation sur les marchés publics force les gestionnaires à se procurer des biens et des services sur le marché selon le meilleur rapport qualité-prix, vous voyez bien que cette législation acte le fait que ce comportement ne va pas de soi dans le secteur public, alors même que de telles restrictions n'existent pas pour le secteur privé. C'est bien parce qu'il y a des incitations qui diffèrent dans un secteur et dans l'autre, et c'est la raison pour laquelle en effet le capitalisme tend à être supérieur à l'économie dirigée. Mais ça c'est vieux depuis ça, c'est un siècle de théorie économique quand même.
Le secteur privé connaît des sanctions que le secteur public ne connaît pas.
Voilà. Enfin,
ça c'est bon.
Oui, mais
il faut marquer une pause dans une minute. Vous n'êtes pas d'accord, Eric?
Non, juste
Frédéric.
Je suis tout à fait d'accord lorsque Michel Aglietta dit que nous vivons dans une économie rentière et donc où on est loin du fameux capitalisme que vous décrivez. Et il le dit très bien et je suis d'accord avec lui. Rente technologique, rente des marchés financiers, rente, comment dire, de la métropolisation. je crois qu'effectivement, aujourd'hui, l'idée que nous vivrions dans un monde où la concurrence gouverne, non et non. On vit dans des économies de rente et qui ne sont pas tellement liées au public, mais qui sont liées à la fonction, au fonctionnement même du capitalisme financiarisé d'aujourd'hui.
On marque une pause. Dans un instant, vous réagirez, Eric Heyer. J'aimerais bien qu'on pose la question quand même du pic d'inflation. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il m'est arrivé de discuter avec des gens de la fonction publique, tout type de fonction publique, et quand ils vous racontent leur vie, leurs anecdotes, on se dit quand même qu'il y a des progrès possibles. Quand le patron de la PHP dit qu'il avait 1500 personnes pour gérer le ticket modérateur.
La révolution numérique n'a entraîné aucune rationalisation de la main-d'œuvre dans le secteur public, ça quand même en dit.
Aucune, je sais pas. Bon, on a fait d'énormes progrès en e-administration à Bercy, par exemple.
Et oui. Donc,
si, quand même.
Oui, très bien.
Bon, on marque une pause. Le pic d'inflation, et puis alors voilà, moi je dis, si on veut réduire la dépense publique, voilà comment je le présente ce matin. Eh bien, on réforme les retraites, pas forcément avec la borne d'âge. On met un peu de capitalisation au bout d'un certain temps, eh bien, les choses finiront par s'équilibrer. Et puis, on divise par deux la durée d'indemnisation au chômage de 24 à 12 mois. J'ai regardé, c'est à peu près ce qu'on voit dans toutes les réformes de l'assurance chômage qui ont été menées par d'autres pays, y compris en Allemagne, après les lois Hartz. Alors évidemment, ce que je viens de dire est absolument scandaleux, mais on peut en dire un mot.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Fergana Ziyari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines et qui a publié « Les écologistes contre la modernité », le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité. Frédéric Farah, économiste et enseignant-chercheur affilié au laboratoire de l'Université Paris-Sorbonne, philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Il est membre du Haut Conseil des finances publiques, qui ne chôme pas en ce moment. Et également, il a copublié « Une autre voie est possible vers un modèle social écologique » chez Flammarion, champ actuel. Il y a l'AMNIDÉ qui me dit 3 à 4% de hausse de salaire dans le privé. Vous rigolez, je travaille depuis 26 ans dans l'industrie. Les augmentations sont en moyenne de 2%. Il y a même des années à zéro.
Non, mais cette année. Oui. Je veux dire, cette année, il devrait y avoir.
Ah oui, cette année, oui. Cette année. Bon. Et puis, j'avais une autre réaction. Je ne sais plus ce que c'était. Non. Bon, allons-y. Oui, le pic d'inflation, Eric Heyer, est-ce que vous croyez qu'on y est? Parce que j'ai vu que là, le pétrole était redescendu, les carburants sont passés sous les 2 euros le litre pour les deux principaux d'entre eux. Les prix alimentaires ont commencé à montrer des signes de détente. Et si Bruno Le Maire avait raison, ça a été dur jusque-là, mais le pic est atteint.
Non, enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, il va falloir, quelque part, de la même manière qu'on arrête de parler de croissance économique, qu'on se dise, vous voyez, quand on a connu un moins 8, le plus, oui, ça ne peut plus rien dire, et vrai. On parle par rapport à l'avant-crise. On dit aujourd'hui, on est à 0,3 au-dessus du niveau d'avant-crise. Vous voyez, c'est un peu une nouvelle métrique. Pareil, pour l'inflation, il va falloir qu'on ait des prix, il va falloir qu'on ait à peu près la même logique, c'est de dire par rapport à l'avant-crise. Vous voyez, le baril était à 60 avant la crise, il est monté à 120, et là, il redescend à 100. Donc, on va dire, même, on peut dire, il y a de la déflation, parce qu'effectivement, les prix baissent un peu partout. Sauf que quand on va regarder le niveau des prix, et imaginons qu'ils se stabilisent aux alentours de 90 ou 100, on va dire, il y a plus d'inflation.
Oui, mais
même il y a une inflation, mais le niveau des prix va être
c'est
largement
fondamental, ce que vous dites.
Et donc,
le
coup,
niveau des prix veut pas dire. Enfin,
voilà.
L'évolution de l'inflation n'est pas significative.
Exactement. Donc, je pense que effectivement, aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un ralentissement économique aussi, globalement, tous les prix, beaucoup de prix, mais importés, sont en train de baisser. C'est-à-dire, effectivement, alors à part le prix du gaz, mais ça, c'est pour d'autres raisons, et c'est lié, et le prix du gaz en Europe, parce que c'est lié au conflit avec la Russie et les embargos, ou en tout cas les coupures russe, mais sinon, on voit les containers baisser, les prix des containers baisser par rapport au pic. On voit le prix des matériaux, d'un certain nombre de matériaux baisser. Donc oui, on peut dire cela, mais attention, il y a les effets de second tour qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire que, vous voyez, les prix quand on parle d'inflation, c'est des prix à la consommation. Les prix à la consommation, ils sont à 5,8 en glissement annuel. Quand vous regardez les prix à la production, ils sont nettement au-dessus. Et on sait qu'il faut à peu près 6 mois avant que les prix à la production aillent dans les prix à la consommation. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, le pic n'est pas complètement achevé. C'est-à-dire, oui, ce qui est importé, peut-être que le pic est achevé, mais on va rester à des niveaux de prix plus élevés qu'avant crise. Et attention, il y a encore un petit effet des prix à la production qui avaient fortement augmenté et les chaînes d'entreprise n'avaient pas encore répercuté cette hausse de prix à la production. Donc ça va encore diffuser. Donc on n'est pas loin du pic, D'accord ? Mais attention, avec des niveaux de prix qui vont rester élevés.
Quelqu'un veut rajouter un truc sur le pic ou je passe ? Frédéric Farah, allez, un petit mot sur le pic.
Je suis d'accord, c'est toute la question. Est-ce qu'on aura des effets de second tour et quelles seront leur ampleur ? C'est-à-dire sur les salaires et...
Ah, sur les salaires, oui.
Oui, puisque c'est en fait les effets de second tour.
On va déjà avoir une hausse de SMIC au mois d'août ou au mois de septembre.
Hein. Et on peut voir, effectivement, si... Alors, en même temps, là encore, pour savoir l'ampleur de ces effets de second tour... Ça renvoie, on retrouve notre sujet du début, c'est-à-dire la question de la répartition, c'est-à-dire le pouvoir de négociation des salariés. Et c'est, si ce pouvoir de négociation est relativement aplati dans certains secteurs ou dans certains domaines, les effets de second tour seront de toutes les façons contenus, puisqu'il n'y a plus de mécanisme d'indexation salaire-prix depuis effectivement les années 80, puisqu'avant il y avait les indexations salaire-prix qui n'existent plus. En Europe, il n'y a plus vraiment d'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire le fait que lorsque les prix augmentent, les salaires suivent. Il y en a encore une en Belgique, mais qui a fait l'objet de modifications récentes et qui rend les salariés belges pas contents d'ailleurs à ce sujet. Mais sinon... c'est un truc qui a disparu. Et là encore, la question est de savoir, c'est, encore une fois, la logique du rapport de force. C'est-à-dire, quelle est la capacité de négociation. Et je finis là-dessus sur mon dada de l'euro, je suis désolé de revenir là-dessus, c'est que la zone euro, telle qu'elle s'est constituée, a fait aussi en sorte que le pouvoir de négociation des salariés soit plutôt érodé.
Pourquoi ? Je vois pas le rapport entre la zone euro et le pouvoir de négociation des salariés.
Je vais vous le dire tout de suite. Bon, alors c'est très simple. Si vous n'avez plus l'arme de change pour obtenir effectivement les ajustements nécessaires, la flexibilité que vous avez perdue sur le change, vous la retrouvez sur les salaires et sur le droit des travailleurs. Donc, en fait, pour faire en sorte que le coût du travail, soit dans sa part socialisée, c'est-à-dire les cotisations, soit les salaires ne progressent pas trop, sinon, bah, il y a un problème de
compétitivité. Quand je peux plus dévaluer, je fais pression sur le pouvoir d'achat.
Voilà. Bon. Et donc, en fait, il y a une logique dans l'euro qui est un peu une logique des talons or. C'est-à-dire, effectivement, l'ajustement se fait par les salaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'euro, ça a un effet, comment dire, au contraire, de pression à la baisse sur les salaires et d'éroder le pouvoir de négociation des travailleurs.
Frédéric, j'ai un peu de mal à penser quand même que c'était le bon temps de la dévaluation
et
que
ça fait rêver. Le pouvoir d'achat des travailleurs n'était pas non plus très avantagé par les mesures de dévaluation successives qui renchérissent le coût de l'importation, etc. On parle de prix de l'énergie. Il n'y a pas de pétrole en France.
Oui. Non, mais juste une chose, les dévaluations, pour qu'elles soient précises, c'est, il faut parler des choses précisément. La dernière dévaluation en France, c'est 1987, c'est la dévaluation Chirac. Pourquoi on fait cette dévaluation en 1987 ? On l'a fait parce qu'effectivement, on est dans une logique de désinflation compétitive qui a commencé dès les années 80, 83. Et le problème, c'est comme elle exerce un effet négatif sur, évidemment, les salariés et leur pouvoir d'achat, la dernière dévaluation Chirac de 87, c'était juste pour donner un peu d'air. Tout comme, par exemple, 92-93, si on prend l'Italie, même chose, ils supportent une austérité budgétaire terrible. Pourquoi ils sortent du SME et ils font une dévaluation qui, d'ailleurs, a été positive à ce moment-là pour l'économie italienne? Ça a donné un ballon d'air. Donc, un peu d'air pur. Voilà.
Non, c'était il y avait un petit bruit dans le sup. Moi, j'ai mon oreillette et j'entends quand on fait. Oui, alors ma question scandaleuse. Je commence par vous, Fakhar Nazari. Réduire la dépense publique, augmenter le taux d'emploi. On réforme les retraites. On met un peu de capitalisation. Là, il faut un peu de temps.
Beaucoup de capitalisation.
Non, pas rien. Il faut essayer de se dire qu'on peut, si on peut aller gratter 2-3 points de PIB de financement des retraites.
Vous avez raison de mettre la question.
Ça prend du temps hein, pour que le système s'équilibre.
La transition, effectivement, voilà. Est une vraie question.
Et je passe.
Moi, je serais plutôt enclin à dire, effectivement, que cette transition, ce sont les retraités qui doivent la payer et non pas les actifs. Ah. Pour une raison très simple, c'est que moi, je suis adepte d'un principe en droit qui consiste à dire qu'on ne stipule pas pour autrui. Et donc, le système des retraites a quand même été bâti sur une espèce de promesse. On a hypothéqué l'avenir des jeunes générations et je trouve ça fondamentalement immoral, pardon, et donc je ne serais pas choqué que les retraités deviennent la variable d'ajustement si on fait demain une réforme des retraites.
Ceux qui ont moins de 40 ans sur ce studio veulent faire payer les vieux.
Oui, non, mais c'est pas une question de... Je crois que c'est une question de justice intergénérationnelle. Ah, c'est-à-dire qu'encore une fois, on a hypothéqué l'avenir des générations futures et donc cette démarche en soi étant fondamentalement immorale, je crois que la justice commande de faire payer aux retraités qui ont fait le choix de maintenir un système par répartition qu'ils savaient préjudiciable pour les générations futures, c'est à eux de l'assumer.
Alors,
maintenant, vous avez raison, effectivement, la question des retraites, c'est la mère de toutes les réformes si on veut assainir les finances publiques. Il faut bien savoir que plus de la moitié de l'augmentation des dépenses publiques ces 60 dernières années est imputable aux seules dépenses de retraite. C'est une réalité. On sait qu'aujourd'hui, que pour assainir le système, on pourrait introduire une dose de capitalisation toujours plus forte. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, cette cette capitalisation, cette hypothèse de la capitalisation, elle est rejetée principalement à gauche de l'échiquier politique, ce qui pour moi est une véritable contradiction, puisque la gauche, et notamment les socialistes, nous expliquent depuis deux siècles que les actionnaires se gavent, que leurs dividendes sont trop généreux. On a en France un économiste qui s'appelle Thomas Piketty, qui a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que le rendement du capital était outrancier. Si ces gens étaient cohérents avec leur propre récrimination envers les actionnaires, ils seraient les premiers à militer dans la rue avec de grandes banderoles rouges en faveur de la capitalisation. Et donc, c'est une véritable contradiction qu'il faut résoudre.
C'est pour ça que Patrick Artus présente les fonds de pension comme une mesure de gauche, par exemple. Alors, il y avait Stéphane Carcillo, c'était passionnant la semaine dernière, qui nous expliquait que, oui, réformer les retraites sans toucher l'abandon d'âge pour des raisons de paix sociale, c'est possible, en allongeant les durées de cotisation, mais que c'était le marqueur de la borne d'âge qui provoquait un déplacement tectonique du marché du travail en permettant de garder les gens dans l'emploi plus longtemps. Un petit peu comme une anticipation d'inflation marque, eh bien, la borne d'âge, c'est une anticipation de fin de vie professionnelle. Donc, réformer les retraites, un peu de capitalisation et diviser par deux la durée de l'indemnisation chômage, Éric Lier. Bon, moi, vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis. Je sais que ce serait
pas convaincu. Non, mais tout se discute. Hein.
C'est
intéressant. Alors, entre nous, enfin, moi, sur les retraites, là où je vais un peu me différencier, c'est que est-ce que 14 points de PIB, consacrer 14 points de PIB pour les retraites, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, c'est juste cela. 14 points de PIB, ça nous permet d'avoir le taux de pauvreté chez les seniors le plus bas de tous les pays européens.
Oui,
d'accord.
Oui, je sais.
Si on va à 10 points de PIB, ben on sera comme les autres.
Ça dépend si on a financé différemment.
Non, mais d'accord. Mais si on va à 10 points de PIB, toute chose égale par ailleurs, on va faire augmenter le taux de pauvreté, etc. Donc, moi, je pense que la question est plutôt, est-ce que, là où je serais d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut le financer. Si on dit 14 points de PIB consacrés aux retraites, il faut le financer. Il ne faut pas laisser de la dette aux générations futures pour financer le problème des retraites. Donc, les retraites, ça doit être financé. C'est la génération d'aujourd'hui des actifs qui financent les retraites, les retraités d'aujourd'hui. Donc ça, c'est zéro déficit. On peut admettre des déficits à court terme quand il y a une crise, mais ça veut dire qu'il faut des excédents, donc zéro déficit. Donc ça veut dire, c'est les 14 points de PIB. Si on veut 14 points de PIB, il faut 14 points de PIB de recettes aussi par des cotisations. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par la défiscalisation des heures supplémentaires, par les baisses d'allègements, on enlève les cotisations et on veut maintenir les points de PIB. C'est ça qui ne va pas. Donc on peut pas avoir les deux. Donc si on dit effectivement les cotisations, il faut les baisser, et ben donc malheureusement, parce que je trouve que c'est malheureux, il faut baisser les pensions.
Tout à fait d'accord avec ça.
Bon, mais d'accord, mais je pense que le vrai choix, il faut se reposer la question.
Et il faut l'assumer.
Qu'il faut baisser.
Personne
les
n'assume des discours de vérité là-dessus. Mais
parce que les seniors, c'est l'électorat qui vote le plus.
Il faut quand même mettre ça dans le débat parce qu'on a l'impression que c'est que les dépenses qui coûtent 14 points de PIB. Mais non, 14 points de PIB, ça fait longtemps qu'on dépense 14 points de PIB. C'est parce que les recettes qui étaient là pour financer ces 14 points de PIB, on les a enlevées et on dit maintenant c'est en déficit.
Regardez.
Mais c'est en déficit parce qu'on a pris des mesures de réduction des cotisations. Donc ça, il faut juste le rappeler. Et donc, faire un bilan, vous voyez, c'est ce qu'essaie de faire France Stratégie. Est-ce que ça crée de l'emploi quand on baisse les cotisations? Est-ce qu'on l'a bien fait au bon endroit, etc.?
Essayez de les remonter, vous allez voir les faits.
Non, mais d'accord. Mais OK. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant en économie.
Mais l'équilibre. Non, mais c'est
bon,
le problème du discours.
Alors, j'ai entendu beaucoup d'économistes me dire que si on n'avait pas fait la réforme Fillon, on serait à 18 points de PIB.
La réforme Fillon des retraites?
Oui.
Non, mais d'accord, mais oui, mais il fallait la faire. Mais
vous me dites 14, Éric. Moi, je vous dis, pourquoi pas 18? Mais si on a 18, il faut 18 de recettes.
Non, mais 14. On est à 8 points de taux de pauvreté, d'accord, 14. Les autres sont à peu près à 10 et sont à 16 de taux de pauvreté. Donc, oui, si vous baissez à 10, moi, chose égale par ailleurs, on n'est pas plus malin que les autres et on va avoir 16 points de taux de pauvreté.
Et,
non, mais on peut.
Et l'assurance chômage, là, vous.
Alors, assurance chômage, bon, enfin, non, enfin, c'est un peu trop long, mais non, mais bien entendu qu'il faut.
Ou alors à géométrie variable en fonction de l'état du marché du travail.
Oui, ok. Alors, ça, d'accord, ça, c'est.
Vous aimez bien le contrat cyclique,
mais bien sûr, le contrat cyclique, ça, c'est intelligent. Vous voyez? Mais alors, donc, ça veut dire qu'il va falloir, comme pour les déficits conjoncturels structurels, nous dire est-ce qu'aujourd'hui je suis en basse conjoncture ou en haute conjoncture? Si je vous pose la question. Ah, on est en basse conjoncture ou en haute conjoncture?
Aujourd'hui, y voir clair, c'est très spécial.
Et, ben voilà. Et donc, qu'est-ce que vous faites
on est
pour
quand même,
chômage
Eric,
si on n'est pas capable...
On est devant la maladie et la guerre qui sont les deux pires ennemis de l'économie.
Dans ces cas-là, on peut dire qu'on n'est pas dans un
cycle. Non, je ne vous dirais pas qu'on est en haut de cycle.
Et voilà. Et donc, du coup, vous direz, eh ben, donc, du coup, il faut augmenter la durée des chômeurs, alors que d'autres vont dire, mais non, on est à 7%, bon. On est quasiment au chômage structurel, il faut le réduire. Donc, dès qu'on met ça, c'est encore une fois très intelligent sur le papier. Une fois qu'on le met en application, on va avoir des débats infinis sur où on est dans le cycle économique, est-ce qu'il est temps de raccourcir de...
Je suis d'accord. Je suis toujours très sensible au mode d'emploi, parce que les bonnes idées, moi je veux la tuyauterie derrière. J'attends de voir par exemple le système anti-fragmentation de la BCE, ça va être ça va être passionnant. Pas trop long Frédéric, parce que je veux vous laisser du temps pour l'euro-dollar.
D'accord.
On a 13 minutes 30.
Je vais être rapide. Oui, Alors effectivement, la question des cotisations. Donc je reviens à ma marotte, parce que...
L'euro ?
Oui, je reviens à ça. Si, si, je suis désolé, mais parce que tout se tient en permanence. C'est-à-dire, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment le lien entre ces questions et l'euro. Donc alors, je recommence ma démonstration, c'est pas grave, mais je vais être rapide. Donc, qu'est-ce qu'on dit en 92 ? Il faut faire en sorte que ça fasse 60% pour la dette, 3% pour les déficits. C'est quoi l'essentiel de la dépense publique ? C'est de la dépense sociale. Qu'est-ce qu'il y a dans la dépense sociale ? De la dépense maladie, de la dépense retraite. Qu'est-ce qu'on fait en 1993 ? Eh bien, on fait la réforme Balladur. La réforme Balladur, c'est l'enfant de Maastricht. Bon. Donc, à partir de la réforme Balladur, jusqu'aujourd'hui, toutes les réformes font en sorte que les calculs pour les retraites, du moins pour la manière dont on a calculé les pensions, c'est toutes les réformes paramétriques, font en sorte que, progressivement, les retraites vont devenir moins généreuses. Et ensuite, comme on ne peut plus utiliser le levier de cotisation parce que sinon, le coût du travail va augmenter, la compétitivité, le marché unique, l'euro et tout.
Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un sujet de coût du travail, sinon on ne se poserait pas la question. Oui, enfin,
mais c'est un sujet de charge fiscale qui oblige aussi le pouvoir d'achat des gens.
Non, mais ce sujet de la différence du coût du travail avec l'Allemagne a été réglé. Mais je n'ai pas le temps d'évoquer ici. Et qu'est-ce qu'on fait à partir des années 90 ? On va modifier la nature du financement de la protection sociale par la fiscalisation progressive de la protection sociale avec la montée en charge de la CSG. Et donc, avec les conséquences que l'on sait, et à la fin, ça nous met les gilets jaunes dans la rue, bon, on le sait. Donc aujourd'hui, on a fiscalisé. Ensuite, on a organisé le définancement de la sécurité sociale à coup d'exonération dans tous les sens. Et je rappelle aussi la fin de la loi Veil, où aujourd'hui, on ne peut plus, effectivement, lorsqu'on fait des exonérations, normalement, l'État devait trouver un moyen, faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte pour la sécurité sociale. Ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, on appauvrit la sécurité sociale et on dit « Ah, horreur, horreur, il faut faire quelque chose parce que ça nous coûte trop cher. » Donc le problème, pourquoi on a gelé le levier de cotisation pour augmenter ? Parce qu'on a dit, dans le cadre de l'euro et du marché unique, ce levier-là va nous poser un problème de compétitivité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On crée des usines à gaz fiscal. Donc le problème, encore une fois, dans ce cadre-là, eh bien, c'est un vrai problème. Et l'euro s'articule avec le problème de la protection sociale, s'articule avec le problème des salaires.
Mais vous ne pensez pas, cher Frédéric, que même si on était avec le franc, la fiscalité française poserait un problème de compétitivité, tandis qu'on a quand même le taux prélèvement obligatoire le plus élevé du monde développé, il faut le rappeler. Hein.
Oui, mais
franc, euro ou je ne sais quoi, c'est un problème.
Non, on peut pas le nier. Le problème n'est pas la question du coût. Par exemple, si votre coût du travail augmente, mais la productivité progresse ou progresse plus vite, c'est pas grave. Donc la question, c'est moins la question du coût, mais c'est la question de la productivité.
Il y a aussi un lien de cause à effet entre le taux de prélèvement obligatoire et la croissance de la productivité. Vous pouvez pas le nier que la fiscalité a quand même des effets dissuasifs sur l'épargne, l'investissement, le travail. Si on propose une taxe carbone pour dissuader les pollueurs, c'est bien que la fiscalité a des effets dissuasifs sur les comportements humains de manière générale. Taxes douanières pour ralentir le commerce mondial, c'est bien qu'on sait que la fiscalité a des effets dissuasifs sur le commerce. Est-ce que vous ne pensez pas que... D'ailleurs, on n'arrête pas de dire, regardez, la Suisse est un paradis fiscal, c'est pour ça qu'ils attirent des capitaux. On admet implicitement que la fiscalité française nuit à la compétitivité de l'économie. Pourquoi dénoncer la concurrence fiscale, sinon ?
On va prendre un exemple.
Parce qu'on n'aura pas de temps pour l'euro.
On va prendre juste un exemple. Emmanuel Macron vous a expliqué qu'il fallait modifier l'ISF en IFI, que si on faisait ce genre de modification fiscale, tout ça aurait des incidences sur l'investissement. France Stratégie nous a produit 3 rapports. Alors on ne va pas dire que France Stratégie, c'est la réunion des gauchistes qui s'est donné rendez-vous. Pas du tout. Donc, trois rapports qui nous disent que cette corrélation est plus que discutable. Alors, on peut penser que France Stratégie ne fait pas bien le boulot. Bon, c'est possible.
Bien les problèmes de méthodologie que pose l'empirisme avec les variables en économie. Des débats qui ont plus d'un siècle et demi. Je veux dire, toute chose égale par ailleurs. On est quand même d'accord sur le fait que la fiscalité a des effets dissuasifs, sinon les protectionnistes ne demanderaient pas des hausses de taxes douanières pour protéger le marché national.
Je
pense qu'il faut être cohérent dans le propos. Pourquoi on dénonce la concurrence fiscale des paradis fiscaux si on pensait que la fiscalité n'avait aucune incidence sur la circulation des capitaux? C'est aussi un problème de cohérence. Pardon.
Pour entrer 2 minutes dans ce débat, en fait, effectivement.
Pas plus de 2 minutes.
Non, mais ok, est-ce que la fiscalité a une incidence? Mais la fiscalité, c'est large. Il y a les impôts, les cotisations, et dans les cotisations, il y a ce qui est du contributif ou pas du contributif. Donc on ne peut pas mettre tout ça dans le même panier. Il y a des études académiques qui nous aident. Vous voyez, et il y a des études qui nous montrent, est-ce que quand j'augmente les taux de cotisation retraite, c'est la même chose que quand j'augmente les cotisations maladie? Eh ben non, c'est pas la même chose. Vous voyez, on peut pas tout mettre dans le même panier. Quand on augmente les cotisations retraite, ça ne fait pas augmenter le salaire brut, parce que les salariés, eh ben, ne revendiquent, ils savent très bien que c'est un salaire différé qui vont l'avoir après.
Donc on peut le faire indifféremment.
Eh ben, c'est ce que montre cette étude.
On peut faire 100% de cotisation sociale sans aucune.
Et bien sûr, il y a les effets non linéaires. Oui, mais d'accord.
C'est déjà 25 au total. Hein,
mais oui, si vous mais d'accord. Non, mais
je pousse les raisons par l'absurde pour voir. Oui, mais vraiment, mais, mes contradicteurs sont cohérents avec
eux-mêmes. Oui, mais vous niez tout. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de résultats, vous dites c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats qu'il n'y a pas d'effet. Quand il y a des effets, vous dites non, mais ça c'est.
Je dis que l'empirisme en économie est quand même quelque chose, une démarche très compliquée parce que les variables.
Non, mais admettez que votre discours est trop général, de dire que la fiscalité, on sait très bien que. Non, vous voyez, quand vous dites on sait très bien que, sur quelle étude vous appuyez? Est-ce que c'est vérifié? Eh bien là, il y a des études académiques qui vous montrent qu'il y a des différences et que augmenter le taux de cotisation n'a pas la même incidence sur le coût du travail qu'augmenter les cotisations sur la maladie. C'était leur exemple. Vous voyez, c'est intéressant. Il faut essayer un tout petit peu de creuser plutôt de dire il est certain que, et on sait que, il faut baisser la fiscalité, ça sera toujours mieux. Ça, c'est un discours qui ne fait pas avancer les choses, qui ne permet pas d'avoir un débat un peu plus apaisé sur les sujets.
Bébar, Bécry, capitalisation, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand le marché s'écroule comme en ce moment? Normalement, un gestionnaire de biens, c'est prendre un peu plus de risques quand vous avez trop de temps et totalement sécurisé.
Je renvoie aux écrits de Piketty qui dit que sur le temps long, malgré les crises, le capital bénéficie quand même d'un bon rendement. Dès lors qu'on a ces conclusions-là, on ne peut que défendre la capitalisation.
Mais ça, non, mais c'est un vrai débat. Il ne faut pas que ce soit un tabou. 1 euro égale 1 dollar. Comment vous accueillez cette nouvelle, Frédéric Farah?
De différentes manières.
Vous me laissez un peu de temps aussi pour faire gagne, parce que c'est pour tout le monde. On a 7 minutes.
Je vais être.
Oh, j'ai assez parlé.
Je vais être bref. Alors, on peut l'accueillir en disant mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement, la facture énergétique en pétrole, elle va augmenter, même si effectivement, on disait tout à l'heure que le prix du pétrole, baisse. On peut s'inquiéter. Bon, alors, on peut dire, c'est épouvantable. Mais de l'autre côté, on peut tout à fait se dire que, pour la compétitivité, pour certains en tout cas, ça peut être quelque chose en termes de compétitivité-prix, quelque chose d'intéressant. Et ça pose aussi un autre problème, c'est quid de la politique de taux de change de la BCE? En fait, c'est la grande absente de cette histoire européenne et de cette histoire de la monnaie unique. On n'a jamais eu une politique de taux de change très claire. Quel aurait été le bon taux de change entre le dollar et l'euro?
Alors, ces dernières années, pour taux de change.
Et alors, c'est tout le problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que normalement, si je reviens dans les textes européens depuis Maastricht, cette affaire de la détermination de conseil de change en termes juridiques aurait dû revenir au conseil, qui n'a jamais été le cas, ce qui fait que finalement c'est la BCE qui s'est retrouvée à gérer cette question du taux de change, alors que normalement ce n'était pas dans ses attributs juridiquement parlant,
vous dire, mais...
par rapport au traité. C'était pas du tout.
Non, mais bien sûr.
Et donc de facto, c'est elle qui s'est retrouvée à être souvent dans une position de réaction plus que d'action vis-à-vis de la Fed, qui fait que on s'est retrouvé soit dans des phases au début que l'euro était faible, ensuite on est arrivé à un euro trop fort en juillet 2008 à 1,60 $, ce qui était absolument
ce qui nous a préservé du choc pétrolier de l'époque. On était à 150 le baril.
Mais en même temps, pour notre industrie, ça nous a pas fait du bien.
Mais perdant gagnant, il y en aura forcément.
Donc c'est pour cela que je pense aujourd'hui qu'on se retrouve. C'est difficile de dire bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle. Ça pose toujours le même problème. Comment avoir un même rapport avec le dollar ou avec une autre monnaie qui puisse convenir à des états dont l'hétérogénéité est la marque de fabrique. Et donc, aujourd'hui, revenir aux années de l'euro fort, c'est pas terrible. Et faire une augmentation de taux d'intérêt, je ne sais pas laquelle, qui conduirait à faire en sorte qu'on puisse ne pas être dans cette situation, c'est bon pour qui et c'est bon pour quoi? Un euro fort ou un euro faible? Il n'y a pas une monnaie qui est absolument bien lorsqu'elle est forte, ou absolument bien parce qu'elle
avait des avantages et des inconvénients dans les deux cas de toute façon. Allez-y, Fergan, on a 4 minutes 40.
Ouais, au risque de paraître un petit peu naïf, moi j'ai toujours appris que la monnaie était une réserve de valeur et qu'il n'y avait pas vraiment à se réjouir qu'une monnaie s'écroule.
Ça ne s'écroule pas.
Oui, enfin vous m'avez compris.
Oui.
Je reviens sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. Il disait le problème c'est qu'effectivement nous sommes obligés de faire pression sur les salaires parce qu'on s'est privé effectivement de l'instrument des taux de change. Mais moi je serais tenté de renverser l'argument. Je veux dire, la rigidité aujourd'hui, enfin, l'absence de liberté contractuelle sur le marché de l'emploi, n'est-il pas aussi responsable des problèmes de compétitivité que peuvent parfois proposer une monnaie forte? Je veux dire, quand il y avait l'étalon or, quand on avait une monnaie commune, comment se faisaient les ajustements lorsqu'il y avait des problèmes? Simplement, vous aviez une liberté contractuelle presque totale qui faisait qu'on pouvait négocier facilement les prix à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations économiques. Aujourd'hui, cette renégociation perpétuelle en fonction de la conjoncture, elle est quasiment rendue impossible par le code du travail, et donc c'est ça qui pose aujourd'hui des problèmes de compétitivité. Mais je ne crois pas qu'il faille se réjouir du fait que l'euro baisse. Après tout, l'épargnant, le consommateur lambda, a intérêt à disposer de la monnaie la plus forte possible. Alors, il ne s'agit pas de la surélever, hein, parce que sinon, vous avez des problèmes aussi liés aux importations. Mais je ne crois pas qu'il faille se réjouir d'une diminution de l'euro par rapport au dollar.
On parle euro-dollar. Je précise quand même que le taux de change global de l'euro, notamment face à la livre sterling ou au yen, l'euro est en progression par rapport à d'autres devises de ses principaux partenaires. Eric Ayer.
Non, normalement, les banques centrales n'ont pas à gérer le taux de change.
Et on est d'accord, il l'a rappelé, Frédéric, c'est vrai.
Oui, mais le taux de change, normalement, il doit être. C'est pour ça qu'on peut avoir un taux de change d'équilibre, c'est que le taux de change doit normalement régler les balances courantes. C'est-à-dire que quand vous avez un excédent dans une zone, bah, la monnaie de cette zone doit s'apprécier par rapport...
Ce qui devrait être notre cas.
Et donc voilà.
Ce qui devrait être notre cas.
Et donc c'est pour ça qu'on peut dire, puisque les déficits sont aux États-Unis, au Royaume-Uni, et que les excédents sont au Japon et en zone euro, normalement l'euro devrait s'apprécier par rapport à la livre sterling et par rapport au dollar, et d'après nos calculs, devrait se situer aux alentours de 1,35. D'accord. Pour la zone euro. D'accord. Quand je regarde à l'intérieur, j'ai une autre vision que Frédéric du problème européen, c'est que le problème européen, tous les pays de la zone euro veulent être excédentaires. Tous. Et pour des raisons de retraite, les Allemands veulent avoir 8 points d'excédent. Mais vous voyez, on a critiqué la Chine parce qu'ils avaient 10 points d'excédent en disant vous déséquilibrez le commerce mondial. Et on applaudit les Allemands parce qu'ils ont 8 points d'excédent. C'est le même problème. Avec 8 points d'excédent, l'euro allemand, d'accord, devrait valoir 1,65.
Bah oui, l'euro,
mais
oui,
mais
l'euro
marque. Il est là le problème, c'est que on veut tous être excédentaires, d'accord, et après, du coup, donc normalement, notre monnaie devrait s'apprécier. Mais vous voyez, si l'euro venait à monter à 1,35, nous, on est mort. On est déficitaire déjà aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc il y a un vrai problème de, à l'intérieur de la zone euro, pourquoi on veut avoir 8
c'est
points d'excédent.
Plaisir à Frédéric, c'est, peut-on continuer à vivre avec la même monnaie sous
c'est
le même
que,
toit
bien hein, entendu voilà, qu'il faudrait arrêter d'applaudir l'Allemagne parce qu'ils ont 8 points d'excédent depuis 8 ans. Depuis 8 ans.
C'est en train de se retourner, le mercantilisme allemand un peu.
Oui, c'est. Non, mais à moi, mais ça, c'est ça qui n'est pas normal. C'est que quand vous avez 8 points, d'excédent, excédent chaque année depuis 8 ans, c'est que votre monnaie est sous-évaluée.
Oui, mais ça, je sais.
Et donc, on ne peut pas vivre quand on est l'Allemagne. Si c'était le Luxembourg, c'est pas grave, c'est un petit pays. Mais l'Allemagne est trop gros. Et donc, on peut dire, dans ces cas de figure, normalement, si vous exportez beaucoup, il va falloir redistribuer sous forme de salaire pour qu'il y ait des importations en retour. C'est ça qu'il faut accepter. Bon, alors, donc, du coup, l'Allemagne est responsable. Aujourd'hui, à court terme, le problème, c'est que vous avez des politiques monétaires, et c'est les politiques monétaires qui, eh ben, bien sûr, la Fed augmente plus vite ses taux. Moi, je suis
le dollar paye mieux là.
Hein. Eh ben, oui, je suis un investisseur, je vais investir et ça va et ça va renforcer les déséquilibres parce que l'euro, au lieu de s'apprécier, se déprécie. Donc, c'est pas une bonne nouvelle.
50 secondes, on a fini. Hein. Vous voulez rajouter un mot, Frédéric Farah ?
Oui, mais je rejoins l'analyse. Le problème, c'est que en fait, qu'est-ce que c'est que l'euro ? C'est un marque dévalué et que dans le fond, et c'est ça aussi la difficulté, c'est que si on était à l'époque du marque, le marque se serait apprécié.
C'est sûr.
J'entends très bien ce que vous dites, Eric Ayer, et chaque fois que vous avez cette analyse, j'ai toujours pas mal de gens, alors je n'ai pas vu là, mais qui réagissent en disant « oui, mais c'est... » pas éternellement critiquer le premier de la classe parce qu'on a le bonnet d'âne tout au fond.
Non, mais c'est vrai, c'est ça qui rend difficile. Mais on voit bien que c'est pas un modèle de croissance d'un grand pays de dire je vais croître par l'excédent. Encore une fois, par les parts de marché, oui, mais pas par l'excédent.
Je me rappelle cette formule du fameux Marcus Kerber qui vient parfois dans ce studio, qui disait que le couple franco-allemand, c'était l'histoire d'une mésentente cordiale. Et je pense qu'il a sacrément...
Il le dit avec son accent.
Oui, mésentente cordiale. Ferhat Azihari aujourd'hui, Frédéric Farah, Eric Ayer. On n'aura pas pu parler de tout, on n'a pas fait les Uber Files, on n'a pas non plus fait... Est-ce qu'on peut faire des prix à géométrie variable en fonction des revenus ?
Ouais.
On en reparlera. Allez. On se retrouve demain à 9h.